l'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Mon invité de la rédaction aujourd'hui est Bruno Studer, le député de la majorité de la 3e circonscription du Bas-Rhin et président de la commission des affaires culturelles et de l'éducation à propos de l'adoption en première lecture à l'Assemblée nationale du projet de loi initié par notre invité sur le contrôle parental. Bruno Studer, bonjour.
Bonjour.
Alors, mardi 18 janvier, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture à l'unanimité la loi visant à encourager l'usage du contrôle parental sur Internet. Alors, quels sont les éléments ajoutés à cette loi qui existe déjà, il me semble ?
Alors, en fait, il y avait une petite disposition qui concernait les fournisseurs d'accès à Internet, Free, Orange, etc., qui les obligeait depuis 2004 à informer leurs usagers qu'il y avait des solutions de contrôle parental et à leur en proposer. Donc on vient déjà proposer pour ces fournisseurs d'accès, on vient préciser en disant que c'est sans surcoût, parce qu'en fonction du niveau d'abonnement que vous aviez des outils plus ou moins performants, et on vient dire que le pouvoir réglementaire va fixer par décret les normes minimales de ce qu'on entend effectivement dans le langage commun par contrôle parental. Mais la première disposition, qui est tout à fait nouvelle celle-là, et qui je pense est la plus importante, concerne les fabricants d'appareils eux-mêmes. Des grandes marques que l'on connaît tous parce qu'on les a tous dans la poche ou dans son salon, qui, pour certaines d'entre elles, proposaient déjà des outils, mais qui n'étaient pas forcément facilement accessibles, facilement manipulables. Et donc là, on vient dire qu'on ne vend plus d'appareils qui permettent d'aller sur Internet sans qu'il y ait préinstallé un outil de contrôle parental dont l'activation va vous être proposée lors du parcours utilisateur. Quand vous achetez un smartphone, vous avez plein d'informations à rentrer, et bien là, vous aurez... pas une information à rentrer, mais d'abord une question qui vous sera posée, c'est on vous posera en gros la question, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez vraiment, vraiment mettre un téléphone portable, par exemple, ou une tablette dans la main de votre enfant sans contrôle parental ?
Alors, la difficulté, c'est que souvent, il y a un appareil, un PC, un Mac, un ordinateur familial à la maison qui va servir à toute la famille. Alors justement, comment mettre un contrôle parental en place ? Vous le disiez, faire un contrat avec les fournisseurs, pour que justement les enfants ne puissent pas y avoir accès, mais que les parents, eux, puissent naviguer tout à fait librement.
Eh bien, dans ces cas-là, la loi précise que c'est un dispositif qui est aisément accessible, et on peut très bien imaginer que vous aviez un code parental qui vous permet de désactiver très très facilement le dispositif. Mais vous savez, le modèle, c'est quand même de plus en plus l'outil individuel.
Oui.
Et le smartphone en est la quintessence, et on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'enfants qui en ont, qu'ils vont de plus en plus tôt naviguer de plus en plus seuls sur Internet. Il y a un chiffre par exemple, qu'on peut retenir, au-delà du fait qu'il y a aujourd'hui une minorité d'enfants qui sont protégés par un système de contrôle parental, vous avez un quart des jeunes de 11 à 14 ans qui se lèvent la nuit, qui mettent une alarme pour répondre à leurs messages, leurs notifications. Donc ça fait partie aussi des choses que la loi ne veut pas dire. Vous voyez, de la même façon que vous disiez, effectivement, il y a parfois des outils qui sont partagés par la famille. Effectivement, il faut qu'il y ait un dialogue autour de ça. Je pense que pour les plus jeunes d'entre nos enfants, il faut vraiment les protéger avec des filtres qui ils empêchent de tomber de façon accidentelle sur des contenus qu'ils n'ont pas à rencontrer. Puis après, au fur et à mesure que l'enfant grandit, il y a un dialogue qui doit s'installer parce qu'il faut prendre acte du fait que la vie à l'ère numérique, ça évolue, y compris dans ses aspects les plus intimes. La sexualité à l'ère numérique n'a plus rien à voir avec celle dans laquelle nous avons... pu grandir à l'époque et à laquelle nos parents ont pu ou pas d'ailleurs nous sensibiliser.
Ça fonctionne de quelle façon ? Ce sont des mots-clés qui vont être rentrés ou c'est vraiment le blocage de certains sites ? Parce que en fait, le cloud, il est mondial, c'est très compliqué de rentrer certains types de sites, on va dire, un peu sensibles. Puis après, on a parlé effectivement de contenus sexuels, de pornographie, mais il y a également la violence ou des
Bien
contenus
sûr.
Sensibles.
Évidemment.
Ce sont des mots-clés.
Il y a des mots-clés, après ce sont les algorithmes. De toute façon, ces entreprises, pour certaines d'entre elles, proposent déjà des solutions. Le problème, c'est qu'elles sont difficilement accessibles et pas forcément facilement manipulables. C'est pour ça que le décret va notamment préciser quelles sont les fonctionnalités minimales. Et vous pourrez alors choisir... de rendre, par exemple, pour les plus jeunes, que certains sites accessibles. Ça peut être ça, un contrôle parental. Vous rentrez les adresses des sites sur lesquels vous êtes d'accord pour que vos enfants aillent. Par exemple, YouTube Kids. Voilà, vous êtes d'accord, donc vous rentrez. Ça peut être une modalité. Une autre modalité, ça peut être de cacher ce qu'on appelle les contenus explicites. Alors, effectivement, ça fait partie de...
Il faudrait que les hébergeurs de sites jouent le jeu aussi.
Alors, ça, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, vous savez, on a renforcé considérablement l'arsenal législatif, notamment dans l'accès... à la pornographie pour les plus jeunes, mais aussi dans la lutte contre la haine, contre les discours de haine sur Internet. Mais tout ça, c'est éminemment compliqué. Vous savez, des sites Internet, vous en avez des millions et des millions, et chaque jour, vous en avez des nouveaux. Et donc là, et malheureusement, ils ne sont pas hébergés en France.
Oui, c'est ça.
Ils ne sont pas hébergés en France. Donc, c'est extrêmement difficile d'aller les atteindre. Donc là, on met sur finalement ce qui est, à mon avis, le plus évident, c'est-à-dire sur l'outil lui-même, on met cette obligation d'avoir effectivement un outil de contrôle parental.
Vous avez des partenaires pour cela qui sont déjà en place ou avec qui vous allez devoir démarcher, on va dire, entre guillemets.
Alors, les partenaires pour le législateur, c'est d'abord ceux qui, effectivement, nous alertent sur la situation. Les associations de protection de l'enfance qui ont des propositions à faire. Il y a beaucoup d'entreprises qui proposent des solutions. Et puis après, on a ces grands constructeurs mondiaux qui ont un enjeu réputationnel quand même. Ouais. Vous savez, moi, je les connais depuis longtemps puisque j'ai fait voter une première loi il y a 2 ans, là aussi à l'unanimité. Sur les enfants youtubeurs, qui sont ces enfants qui font des vidéos, qui sont ensuite monétisés, placement de produits, etc. Je leur ai reconnu le statut de travailleur, parce que jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. Et je leur avais dit à l'époque, parce que forcément, quand on leur met des contraintes, ils n'aiment pas trop, je leur ai dit quand même sur la question de la protection de l'enfance, de la lutte contre le travail des enfants à l'époque, et là, de la lutte contre un accès trop facile à des contenus haineux, pornographiques, etc. Je pense qu'il faut tous qu'on se mette ensemble, et donc ces entreprises ont bien compris, et... elles ont d'ailleurs commencé à travailler aussi autour des ministres qui sont très très impliqués sur cette question. Monsieur Taquet, secrétaire d'État à la protection de l'enfance, Monsieur O, secrétaire d'État au numérique. Et il y a un site internet auquel tout le monde collabore qui s'appelle jeprotègemonenfant.gouv.fr où vous trouvez plein d'aides, que ce soit technique, comment installer un contrôle parental, ou aussi des aides à des questions. Parce que quand ça arrive que votre enfant est confronté à des contenus très violents ou pornographiques, vous ne savez pas forcément comment réagir. On a besoin de trouver des questions et c'est pour ça que Internet, c'est à la fois le pire et le meilleur. Vous avez une question aujourd'hui, c'est très simple d'aller la googliser, comme on dit. Et, et vous trouvez des sites qui vous donnent des bons conseils. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même un mouvement assez convergent, notamment en France, parce que la France, sur ce sujet-là, la protection de l'enfance sur le numérique est assez en pointe. Comme la loi sur les enfants youtubeurs était une première mondiale que j'avais fait voter, cette loi sur le contrôle parental, là aussi, c'est une première mondiale.
La loi sur les enfants youtubeurs, comme vous dites, je ne sais pas, d'avoir un nom particulier, elle a été reprise au niveau mondial ?
Alors, pas encore. C'était une loi qui... le titre exact, c'est une loi visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image des enfants de moins de 16 ans sur les plateformes de vidéos en ligne. Donc, on peut l'appeler...
C'est plus précis, c'est bien,
alors,
merci.
C'est plus précis. On peut l'appeler loi Studer 1, loi Studer 2. Moi, j'ai toujours... c'est pas à moi de décider comment on l'appelle, mais loi enfant youtubeur, parce qu'en fait, les enfants, ils comprennent vite de quoi il s'agit. Ouais. Et ça leur parle. Moi, je fais beaucoup d'interventions dans les écoles et je leur explique que le travail des enfants, c'est interdit, y compris sur Internet. Et que les influenceurs qui sont des stars, il y en a certains qui ont 4-5 millions d'abonnés et qui gagnent plusieurs dizaines de milliers d'euros, il fallait les protéger. Et donc, c'est une loi qui, je l'espère, va inspirer d'autres pays. Ça n'est pas encore le cas aujourd'hui, mais globalement, on a une convergence autour de la France sur la question de mettre des règles sur le numérique. On l'a fait sur d'autres sujets comme le droit d'auteur qui vient protéger y compris les journalistes qui se faisaient auparavant piller certains contenus par des grandes entreprises, des grandes plateformes. On l'a fait sur les contraintes qu'on fait peser sur les plateformes de vidéos comme Netflix, comme Amazon qui auparavant ne contribuaient pas à la production française en langue française. Et l'exception culturelle, il faut la défendre toujours, y compris sur les nouveaux médias. Donc, on est à la pointe et dans les prochaines semaines, on devrait voter ici à Strasbourg, au Parlement européen, un projet de directive sur les services numériques qui devrait faire peser toujours davantage de contraintes sur ces grandes entreprises qui, effectivement, parce qu'elles ont un statut aujourd'hui de simples hébergeurs et non pas d'éditeurs, fuient un peu un certain nombre de leurs responsabilités parfois.
Bruno Studer, on va dire le numérique, l'outil du numérique ne fait que se développer. Enfin, on est au balbutiement aujourd'hui. Et cet outil est utilisé évidemment par les enfants, par les lycéens qui sont souvent équipés maintenant d'ordinateurs en classe qui remplacent les livres. On sent qu'il y a un chemin et surtout un travail colossal pour encadrer tout ça et pour au-delà des contenus. Mais sur les productions et la façon dont on va se servir de cet outil pour qu'il reste un service, un service... positif, c'est pas bon.
Au service, en tout cas, du meilleur.
Au service du meilleur, merci. Voilà. Tu couperas, Lucas, merci.
Au service du meilleur. Parce que s'agissant du meilleur et du pire, il faut toujours essayer d'utiliser le meilleur et d'éviter le pire. Et par exemple, si on prend l'exemple du confinement, que cela aurait-il été si, effectivement, il n'y avait pas eu ces moyens de rester en communication entre les professeurs et leurs élèves? Puis en même temps, on voit que les jeunes en ont profité pour passer beaucoup, beaucoup de temps sur Internet, où effectivement, on est en train de découvrir un certain nombre de choses. Par exemple, l'indébilité.
Qu'est-ce que c'est?
C'est le fait qu'il faut arrêter de penser qu'à partir du moment où on met un truc sur Internet, ça puisse disparaître un jour. C'est faux. Faux, 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 faux. Ça, il faut vraiment que ça rentre dans l'esprit.
Il y a une prise de conscience.
Oui. Quand vous mettez... par exemple, il y a beaucoup de jeunes qui pensent que... vous savez, c'est à la mode des nudes aujourd'hui, c'est-à-dire dans leurs relations de jeunes. Voilà, quand ils sont amoureux, notamment, ils s'envoient des photos d'eux, plus ou moins dénudées. Et voilà, c'est comme ça. Mais n'empêche que le jour où il y a une rupture, qu'est-ce que l'autre va faire de la photo? Et on a des sites internet comme Ficha, qui c'est le verlan d'affiche, où on collectionne les photos de nudes des gens qui les mettent comme ça en pâture sur les réseaux sociaux. On a eu des événements dramatiques ces derniers temps. Moi, j'ai beaucoup suivi ces familles qui font des vlogs, c'est-à-dire où ils se filment, ils mettent en scène leur vie familiale avec une youtubeuse, une jeune maman youtubeuse de 4 enfants qui a mis en ligne sa vie. Moi, je pense qu'il faut... Je suis pas d'accord avec ça, mais c'est sa liberté de le faire si elle veut, à partir du moment où elle respecte aussi le droit tel qu'il existe, notamment sur le travail des enfants. Et elle disait quelques semaines avant de passer à l'acte qu'effectivement, toutes les critiques, toutes les insultes, toutes les menaces dont elle avait été indélébile, qu'elle ne s'effacerait plus jamais. Et évidemment, de la même façon que les images qu'elle a mises de ses enfants ne s'effaceront plus jamais non plus. Et peut-être que ses enfants, une fois grands, ils aimeraient avoir un droit à l'oubli aussi. C'est pour ça qu'il faut toujours rappeler chacun à sa responsabilité. Voilà, mais quand on va sur Internet, il faut juste avoir conscience qu'on laisse une trace... indélébile.
Bruno Studer, député de la majorité, merci infiniment de nous avoir d'être venu en studio aujourd'hui pour répondre à nos questions. Donc je rappelle, le texte passe au Sénat, ce sera le 26 janvier. Adoption définitive à l'Assemblée, ce sera le 9 février 2022. Il est passé à l'unanimité en première lecture. On imagine que vous n'avez pas de doute sur la suite.
Écoutez, on croise les doigts. Voilà, mais je crois que sur le sujet de la protection de l'enfance, effectivement, il y a quand même, et notamment sur le numérique, il y a beaucoup, beaucoup d'inquiétudes qui sont partagées. Donc, je vais suivre le travail de mes collègues sénateurs et puis on va pour justement essayer d'éviter le pire. Donc, on travaille ensemble.
Merci à vous.
Merci.
L'invité de la rédaction. Valérie Vial.